R22, tout mon R22, antenne, tout mon radio Brouhaha.
C'est le salon des colères, donc, au Centre Pompidou. J'ai l'impression qu'une nouvelle forme de colère est apparue ces derniers temps sur fond de ce qu'on appelle maintenant la dissonance cognitive. On le voit bien pour ce qui concerne la catastrophe environnementale. Tout le monde sait désormais que la prédation infinie de ressources finies nous a déjà plongé dans une catastrophe incontrôlée. Et pourtant, rien d'important n'est fait pour amorcer une bifurcation radicale. Et on n'arrête pas de nous dire que des gens, des jeunes gens, en tout cas par rapport à moi, cette dissonance cognitive, ça les rend folles et fous. Voilà, on dit dissonance cognitive. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans ce qu'on appelle un peu trop vite le monde littéraire. On fait comme si la fête battait son plein, comme si tous ces livres imprimés, tous ces événements littéraires, et j'en fais moi, j'en fabrique des livres, et je participe à des événements comme ici, tous ces milliardaires conservateurs qui veulent prendre le contrôle du marché pour leur guerre culturelle, comme si tout ça n'avait aucune conséquence. On ferme les yeux, on reprend une coupe et on continue à danser. Car contrairement aux idées reçues, s'il y a bien un domaine qui n'est pas en crise, ou alors c'est une crise de boulimie, une crise de surproduction, une crise de foi, FOIE, et en quelque sorte, et certainement pas une crise de foi, c'est bien le domaine de la publication des livres de littérature contemporaine et de toutes les activités annexes qui lui sont désormais associées. Donc, du point de vue numérique et de la masse, du business global, dans ce secteur comme dans celui, je ne sais pas, des hydrocarbures par exemple, tout va bien. Des tonnes de papier sont produites et transportées dans des camions à l'aller et au retour pour être détruites et finir en papier hygiénique, c'est Le Monde qui le dit la semaine dernière dans un article. Tout va donc bien tant que toute une économie profite de ce qui ressemble bien à une casse. D'autres réalités apparaissent lorsqu'on essaie de nuancer. Si on y regarde de plus près, le marché du livre a pour particularité d'être d'une grande stabilité depuis plusieurs décennies. Le gâteau fait à peu près la même taille qu'il y a, disons, 40 ans, sauf qu'il y a beaucoup plus de personnes autour de la table, comme ici. On pourrait appeler ça démocratisation. Sur une galette de 6 à 8 personnes, il faut désormais faire non pas 2 ou 3 parts, mais 10 fois plus, ce qui fait de toutes petites parts avec pas grand-chose à manger. On pourrait appeler ça précarisation. L'heure n'étant plus vraiment à l'égalitarisme, le principe, c'est celui bien connu dans les domaines hyper compétitifs des nouvelles technologies du « winners take all », voire du « winner takes all ». Des gagnants qui ramassent tout. La conséquence inévitable, c'est la mise au pilon de livres qui n'ont rencontré personne. Alors, le côté positif, parce qu'il y a un côté positif, c'est que le ticket d'entrée est relativement bas pour publier un livre de poésie ou autre. Beaucoup peuvent y avoir accès, mais le chemin pour accéder au carré VIP est étroit et incertain et politiquement orienté. Et de là où la plupart restent, on ne voit pas grand-chose de cette fête. Alors dans ce cas-là, il y a celles et ceux qui s'accrochent, et là, pas d'autre solution que de tenter de répondre aux attentes. Conformité, zone de confort, mainstream, et dans l'édition, la solution, c'est la concentration et la financiarisation. Et puis, il y a celles et ceux qui se disent « En fait, elle pue cette fête, non ? On n'a qu'à organiser la nôtre. » C'est à elles et eux qui intéressent cette émission aujourd'hui. Elles et eux qui ont organisé une autre vie littéraire que dans cette fête qui ressemble à une soirée de David Guetta. Et j'ai souhaité qu'on le fasse aujourd'hui à partir d'un livre qu'on va étoiler. Le livre d'Élodie Petit, Fiévreuse plébéienne. Livre qui a été pour moi le seul moment de joie durant un printemps qui ressemblait au pire des hivers. Un livre qu'on pourrait imaginer inassimilable par la machine à broyer des romans et des témoignages. Un livre de poésie d'abord. Et ça suffit pour dire une marge dans un monde où le narratif a tout envahi pour produire un mode par défaut étouffant qu'il ne convient même plus d'interroger, comme l'ont fait il y a quelques décennies, les nouveaux romanciers, ou pour ne citer qu'elle, Monique Wittig. Poésie politique ensuite, mais qui fait ça aujourd'hui de la poésie politique? La poésie, ça doit être sympa, des oiseaux, des machins, des ceci, cela, pas de la politique. Encore une forme de marge. Manifeste aussi d'une vie poétique comme on n'en avait pas rencontré depuis longtemps. C'est un livre publié par les éditions du Commun, qui sont représentées aujourd'hui par Juliette Rousseau, maison qui a fait des choix radicaux, comme entre autres, celui-ci est symbolique, en fait pas que symbolique, non, il est économique, mais comme entre autres celui de ne pas vendre ses livres sur Amazon, de participer à un collectif sur l'édition féministe, et qui essaie aussi d'inventer un autre modèle social et économique, qui n'est pas si simple d'ailleurs, on en parlera. Livre enfin qui utilise une typo non-binaire proposée par la collective Bye Bye Binary, qui est représentée ici par Eugénie et Lina. Et pour continuer à étoiler cette discussion, j'ai aussi convié des membres du collectif Le Crachoir Antoine Sabatier, Stéphanie Vauvor, Ahmedine Cédès, qui s'est formée à la fois dans et contre une structure institutionnelle que je connais un peu, en l'occurrence le Master des créations littéraires de Paris 8, et qui depuis élabore les conditions d'un être commun littéraire. Mais avant qu'on commence, on va écouter the one and only Élodie Petit lire une partie de Fièvresse plébéienne.
Merci Lionel. Je vais commencer par les pages centrales de Fiévreuse plébéienne. C'est un manifeste, il s'appelle le manifeste de la langue bâtarde. La langue bâtarde est le fruit névrosé de l'accouplement d'une langue littéraire ténue avec un langage de rue, un argot rural, une langue de trottoir, un dialogue vide de repas de famille. Elle est vulgaire dans le sens où elle ne se soucie pas de sa réception. Elle est. Elle parle trop fort. Elle ne s'arrime pas là où il faut. Elle se contrefout des règles. Elle s'invente au fur et à mesure qu'elle raconte. Elle rappe. Elle écorche. Sa poésie naît du trouble, du mélange, du choc. Elle met en lumière les dysfonctionnements sociétaux d'une langue normée, autoritaire, institutionnelle. Elle est le diable. Elle est incorrecte. Elle n'est pas là pour plaire aux hommes, à la bonne société, aux bien éduqués, aux lettres françaises, à la rentrée littéraire. Elle est libre de ce à quoi elle ne correspond pas. Elle a fui le vieux monde. Elle habite vos ruines. Elle est fragile, discontinue. Elle vit dans des appartements mal chauffés. Elle n'a pas peur d'être dramatique, drama queen, lyrique dans ses larmes, élégiaque à l'amour, saphique, mielleuse, ouvertement érotique, pornographique et gênante. Elle n'a pas de trame narrative directe, évidente. Elle raconte brutalement ce qu'elle traverse. Elle colle au réel. Elle a les mains moites. Elle dérange par sa franchise et son manque de politesse. Elle n'est pas là pour être gentille. Elle n'est pas conciliante. Elle est transpédéguine. Elle est une voix minoritaire. Elle est grandiloquente. De là d'où elle vient, elle ouvre sa gueule. Elle a conscience des trajectoires. Elle sait toujours d'où elle parle. Elle dénonce son patron. Elle est contre le salariat. Elle est anticapitaliste. Elle boit trop. Elle féminise tout. Elle aime s'entourer d'autres bâtardes. Elle mouille sa culotte. Elle trempe la tienne. Elle bouffe à tous les râteliers. Elle est féministe et la ramène dès qu'il y a du grabuge. Elle est chiante et trouble faite. Elle fait chier. Elle mange pas de viande. Elle trouble le système d'un huilé hétéro-patriarche. Elle pisse sur vos pompes. Elle t'emmerde. Elle aime le cul, sale et direct. Elle fait pas de concessions. Elle expérimente. Elle fanzine. Elle répond à son urgence. Elle demande pas la permission. Elle est sans précaution, sans filet, sans papa-maman derrière. Elle a un peu trop conscience des classes. Elle est spiritueuse, précaire, instable, dépendante affective. Elle est exigeante, intense, en boucle, anxieuse. Elle est belle parce qu'elle est vraie, simple, directe, touchante, mal agencée. Elle pleure facilement. Elle rit aux larmes. Elle est psychée. Elle utilise le plagiat. Elle se serre. Elle détourne. Elle pille. Elle suce. Elle a un problème avec la drogue. Elle en a jamais assez. Elle en veut toujours plus.
Alors, merci Élodie. Ce manifeste de la langue bâtarde est un des manifestes qui sont présents dans ce texte, Fiévreuse plébéienne, avec le manifeste des poètes vivantes aussi. Et puis même, je peux penser à d'autres endroits de manifeste, comme par exemple cette page qui ouvre le recueil des anthologies douteuses, où on avait déjà rencontré cette fiévreuse plébéienne. Et c'est peut-être une question que je voudrais te poser pour commencer. Cette langue bâtarde, cette fiévreuse plébéienne, au départ, elle s'est plutôt expérimentée sur des scènes, dans des performances, et aussi dans tout un ensemble de fanzines que tu as conçues avec ces éditions douteuses que tu fais avec Marguerin Lelouvier. On a connu une première publication chez Rotolux, d'une version plus mince du livre. Et je me demandais ce qui a mené finalement à trouver dans cette institution qu'est le livre lui-même, ce livre imprimé, un accueil pour cette langue bâtarde. En fait, qu'est-ce qui avait fait ce désir, cette projection dans un livre, après ces différentes étapes de plus expérimentales, avant-gardistes, dans des espaces que tu as construits et auto-édités toi-même, quoi?
Alors, déjà, le livre, il y a déjà eu un livre qui était l'anthologie douteuse. Donc, c'est-à-dire que, parce qu'à la base, quand même, je viens vraiment du fanzine. Le fanzine, du coup, donc, effectivement, sous une bannière commune avec Marguerin Lelouvier, où on s'appelle les éditions douteuses. Ça fait pendant 10 ans, on a fait des fanzines de courts textes punk, homosexuels, qui ont circulé comme ça, à droite, à gauche. Il y en a qui sont on ne les réimprime plus forcément. Donc ça a été l'anthologie. Ça, c'était déjà un premier passage dans le livre, quand même. Et le livre, évidemment, ce qu'il me permet de faire, c'est qu'il me permet quand même de déplacer et de trouver d'autres endroits que des circuits alternatifs d'entrer dans d'autres foyers, on va dire, quelque chose comme ça.
Et est-ce que tu trouves toujours indisciplinée cette langue bâtarde dans le livre? Il me semble qu'entre les deux étapes, il y a eu un travail peut-être plus fort, par exemple, justement sur la question dont on parlera tout à l'heure, de l'écriture inclusive ou du féminin masculin, où il y a une sorte de dérèglement peut-être plus grand dans le livre qui existait auparavant.
Alors, il y a une langue qui est travaillée et expérimentée depuis... j'ai 37 ans. Il y a vraiment une langue qui est expérimentée dans les fanzines. C'est vrai que je ne me suis jamais retenue d'écrire quoi que ce soit. Donc, de toute façon, en fait, je pense que la langue qui est là actuellement, elle vient de ça aussi. C'est-à-dire que je ne me suis jamais contrainte à une institution ou quelque chose comme ça, on va dire. En plus, je viens d'une école d'art, donc il n'y a pas vraiment de formatage quelque part, je ne sais pas. Et dans ce sens-là, je pense que la langue qui se trouve dans Fiévreuse plébéienne, elle est le fruit de ces années de milieu alternatif.
Et comment ça se passait, du coup, de passer de ce moment de l'auto-édition, où on est complètement libre, etc., à la discussion avec Juliette Rousseau des Éditions du Commun pour constituer un livre qui a déjà un cadre préétabli et sur lequel on peut intervenir?
En fait, je me sens toujours aussi libre dans le sens où je choisis les personnes avec qui je travaille. Et ce sont des personnes qui sont plutôt engagées politiquement et qui correspondent à des idéaux ou des valeurs que moi-même, pour lesquelles je milite. En fait. Donc, en fait, il y a vraiment une continuité dans tout ça qui fait que je me sens libre de proposer absolument ce que je veux. Et le travail avec Juliette sur le texte de Fiévreuse plébéienne, ça a été beaucoup d'échanges et d'allers-retours. Parce qu'il y a, en fait, il y a vraiment le texte qui s'est modifié au fur et à mesure de la relecture. Donc c'est vraiment au moment de la relecture que finalement j'ai entamé aussi une réécriture, dans le sens où il y a vraiment cette. Le texte était déjà dans la totalité quasiment féminisé ou débarrassé du masculin. Et après il y avait vraiment cet outil magnifique que Bye Bye Binary avait commencé à dessiner avec ces typos qui rendaient une fluidité dans la non-binarité. Et du coup, il y avait vraiment cette porte ouverte, cet outil dont il fallait s'emparer pour concrétiser, on va dire, une démasculinisation totale de la langue.
C'est peut-être la question que je peux aussi poser à Juliette. Comment ça se passe au moment où vous décidez de vous engager non seulement dans la publication de ce livre, mais dans l'ouverture d'une collection de poésie, alors que les Éditions du Commun sont plutôt une maison d'édition, disons, de critique sociale à ce moment-là?
En fait, le fonctionnement aux Éditions du Commun, on est 3 éditoristes, on est une coopérative, on est une SCOP. Et en fait, sur les choix éditoriaux, on porte chacune des collections, des choix en particulier, et après, en gros, on se fait confiance. Donc la collection de poésie, c'était ma volonté à moi. Je pense que j'avais envie de rebondir sur la question que tu posais à Elodie, parce que Je me souviens qu'à une soirée de présentation de Fiévreuse Plébéienne où j'étais là et les gens ne savaient pas que j'étais l'éditrice d'Élodie, quelqu'un lui a dit « ça va, c'était pas trop compliqué à négocier avec ta maison d'édition ». Il y a vraiment cet imaginaire du rapport de force qui n'est pas du tout un imaginaire dont il faut se défaire. Hein. Je pense que les autoristes ont besoin de défendre leurs droits face aux maisons d'édition, mais qui est un imaginaire très homogénéisant pour un milieu éditorial qui ne l'est pas. C'est de la co-construction. Ce qui s'est passé autour du livre, du texte, etc., c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, effectivement, parce que peut-être le point de départ, c'était une affinité politique, mais pas que politique, c'était aussi une affinité autour du texte en lui-même.
Et aussi une continuité de travail, de collaboration. Enfin, moi, j'adore les collaborations. Et je pense que quand on est militant et dans l'autonomie, ou en fait autonome, on est vraiment dans. Enfin, on est habitué à travailler avec d'autres personnes. Et je pense que ce texte, du coup, il s'est construit en collaboration étroite avec. Parce qu'on a fait plusieurs réunions avec BBB et avec les éditions du commun, où en fait, finalement, le livre qui est une aventure solitaire à la base, là, il y a quand même quelque chose qui se déplace aussi ailleurs, dans un truc plus politique.
Alors, quand on regarde de loin, un peu comme j'ai fait, hein, en me disant, tiens, on cherche toujours des cohérences, évidemment, mais c'est vrai que ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans les éditions du commun, il y a pas mal de livres, justement, sur la question de la langue et sur la question des langues. Et sur la question, il y en a un qui est apparu dernièrement, de Malo Morvan, que j'ai à peine découvert ce matin, mais qui pose très clairement ces enjeux théoriques autour de la langue unifiée, disons. Mais il y a aussi tous ces livres, cette série de fascicules plutôt sur les Français, hein, les différents Français. Et moi, je me disais, bon, d'une certaine manière, alors je fais... pas une question, je fais presque une réponse, mais le livre d'Élodie est une sorte de mise en pratique, une expérimentation d'une pensée de la langue diverse, plurielle, et qui ne s'uniformise jamais. Est-ce que c'est ça aussi que toi, tu as reçu dans ce livre-là ?
Oui, après, je pense que on n'est pas... Non, mais je vais toujours ramener la discussion à ce niveau-là. J'ai commencé par dire qu'on était une coopérative. Je pense que c'est important. Je vais toujours la ramener à un niveau structurel et matériel. Mais le choix des textes sur la langue, il est aussi lié au fait qu'on est trois éditoristes qui ne venons pas du monde du livre, qui n'avons pas été formés à l'édition, qui avons en commun de venir plutôt d'une classe moyenne, voire populaire, rurale. Et donc, le choix de texte, il correspond aussi à comment nous, on s'inscrit dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on a envie d'y voir exister? Quelles sont les questions qui nous animent? Et donc, je pense qu'effectivement, tous les livres autour de la langue, c'est parce que pour nous, c'est comment dire, devenir éditoriste, c'est à la fois entrer dans un monde qui quelque part nous était un petit peu défendu, mais c'est en même temps aussi rentrer dans ce monde pour le mettre à disposition de personnes pour qui, comme nous, il est loin d'être une évidence et il peut pas être une reproduction. Voilà.
Je trouve que Fiévreuse Plébéienne, c'est aussi un très beau livre sur la vie poétique, hein, sur la vie poétique. Alors, sur lequel on trouve à laquelle on trouve une histoire. Hein. Il y a un côté bien sûr rimbaldien avec ton fameux texte Rimbaud Lagouine. Et puis on sent, il y a Artaud qui est présent. Il y a des personnages qui sont repris comme ça sur une forme de vie poétique. Et dans le livre, Johnny, qui est cette image, tu veux déjà intervenir? Johnny qui vit cette vie de l'écriture, qui dit à un moment je suis obsédé par l'écriture, ou mon obsession pour l'écriture ne s'est jamais arrêtée. Il y a quelque chose dont il parle jamais, lui, c'est la question du livre, du format, de l'objet qu'il est en train de fabriquer, comme si la vie poétique était avant tout une vie politique, une vie de fête, de sexe, avec ce rapport entre les deux langues, hein, la langue qu'on utilise dans l'acte sexuel et la langue qu'on travaille dans l'action poétique. Mais ma question vient de très très loin, puisque j'ai envie de dire, est-ce que tu as quand même eu l'impression que cette vie poétique que tu as eue aussi, depuis que le livre est apparu, elle a changé?
Ben non, bien sûr. Enfin, il y a quand même. Enfin, de toute façon, c'est quand même. Ça reste toujours une précarité. Enfin, la vie poétique égale aussi précarité. Donc ça, par exemple, c'est une continuité, évidemment.
Oui, la valeur travail n'est pas hyper représentée dans le livre, par exemple, hein, comme une valeur de gauche.
La valeur de
la valeur travail, ouais.
C'est vrai. Ouais, ça défend pas forcément le travail, mais un autre travail, on va dire. Il y a quand même. Mais sur les figures qui sont convoquées, qui sont Arthur Rimbaud-Lagouine ou Michel Foucault, c'est vrai que elles sont convoquées pas vraiment dans une nostalgie poétique. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Arthur Rimbaud-Lagouine, vraiment, il m'est apparu parce que j'en avais marre que la poésie soit réservée à Arthur Rimbaud sur France Culture, par exemple, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est qui Arthur Rimbaud maintenant, quoi? Et je me suis dit, forcément, à Lagouine. Par exemple, c'était venu comme ça. Et du coup, toutes ces figures-là qui sont féminisées, c'est aussi une manière plutôt de, on va dire, de désacraliser aussi de les désacraliser. Ouais.
Oui, puis en plus tu joues.
Oui, c'est une invocation quelque part, bien sûr.
Oui, ouais. Je pense à un très beau passage aussi de Violette le Duc, dont on imagine que la citation est apocryphe, comme on dit. C'est justement sur le travail de la langue. Donc il y a aussi tout un travail en reprenant ces figures, en les transformant dans la fiction. Et puis Michel Foucault, c'est Michel le Foucault aussi.
Oui. Ouais. Je lirai un passage de Michel Foucault tout à l'heure.
D'ailleurs. C'est vrai, tu vois, il y a un passage que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est page 101 ou pas. Enfin, 101, 102. Hein, ouais. Sur, oui, ça doit être celui-ci, non ? Ouais, ouais. Donc, peut-être pour rebondir avec Juliette, je me demandais, de la même manière qu'on voit, par rapport à cette situation un peu catastrophique que je décrivais, de surproduction aujourd'hui, mais aussi de surinvestissement, de la foi, hein, crise de foi, mais pas crise de la foi. Je me demandais ce qui avait amené à la création des éditions du commun, à un moment où, quand même, pour se lancer dans l'édition, il faut avoir, non pas les reins solides, mais il faut se poser des questions qui sont aussi des questions sociales, politiques, sur quel est l'objectif qu'on défend dans une maison d'édition. Quelle est votre position à vous dans les éditions du commun? Qu'est-ce qui les amène? Qu'est-ce qui amène à leur création? Et qu'est-ce qui forme le catalogue? Et qu'est-ce qui fait son autonomie et son indépendance?
Le point de départ, c'est une collection qu'on a toujours qui s'appelle Culture des précédents, qui est une collection qui met en avant des expériences, analyses, textes autour de luttes passées, avec un petit peu cette idée d'avoir envie de transmettre des expériences et des analyses de luttes qui sont le plus souvent produites de l'intérieur. Donc il y a vraiment, clairement, le point de départ est quand même très politique et très lié au mouvement social. Et puis assez rapidement, il y a une collection de littérature qui apparaît, qui au début se concentre vraiment sur les questions de travail. Alors depuis, ça a évolué, mais qu'on appelle la collection des réels, qui a longtemps été placée d'ailleurs en sciences humaines par notre diffuseur. C'est un sujet, enfin c'est une discussion politique, je trouve, intéressante. Et puis on est allé ensuite vers l'essai, maintenant la poésie, donc on a un peu diversifié le catalogue. Nous on est à un endroit, c'est compliqué hein, c'est un vrai débat et à plein de niveaux. On l'a commencé un petit peu tout à l'heure avec Antoine ici des éditions Terrasse, mais en gros je pense que là où on est aujourd'hui, il y a à la fois l'envie de faire que l'édition soit un outil transmissible, donc on a tout un travail autour de ça. On a un podcast qui s'appelle Les Mécaniques du livre qui a deux saisons où on a vraiment essayé de montrer un peu les coulisses de l'édition et aussi d'aborder une certaine partie des questions politiques qui nous traversent. Mais il y a aussi l'idée de construire des structures pérennes qui nous appartiennent, donc l'idée d'avoir une SCOP et qui sont rémunératrices pour l'ensemble de la chaîne du livre, et qui sont rémunératrices de façon juste, puisque quand même un des marqueurs aujourd'hui de l'édition, c'est que c'est très difficile dans l'édition indépendante de payer les gens, et donc en fait on est à la merci de grands groupes qui font comme tous les grands groupes dans le capitalisme qui nous exploitent. Donc il y a vraiment cette envie de construire une économie qui soit juste et rémunératrice. Et puis de manière générale sur les textes, je pense, j'ai envie de dire, puisqu'on est au Centre Pompidou, j'ai envie de dire aussi qu'on n'est pas parisien, parisienne aux éditions du commun, et que ça fait que je pense qu'on a un rapport à l'édition, on a un rapport à la marginalité en fait, qui n'est pas le même qu'on aurait en étant inscrite dans le tissu éditorial parisien.
Ouais, en même temps, on peut dire, parce que ça c'est un mouvement qui est très facile à voir depuis 20 ou 30 ans, qu'on ne peut plus monter une maison d'édition indépendante à Paris. Les conditions économiques ne sont pas réunies pour monter une maison d'édition indépendante à Paris. Donc ce que je vois, c'est que toutes les maisons d'édition indépendante se montent ailleurs, pratiquement.
Concrètement, de façon très basique, hein, nous, avec ce qu'on est en capacité de dégager comme salaire aujourd'hui, on ne vivrait pas à Paris. Mais là où on vit, dans la ruralité, on peut vivre de notre métier d'éditeur, ce qui fait une grosse différence, évidemment, dans nos possibilités dans le travail.
Alors ça m'a beaucoup frappé, cette dimension de la transmission, de la pédagogie, et j'encourage vraiment, parce qu'il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes ici, à aller écouter les podcasts sur l'édition. Il y a un blog aussi, vous intervenez à différents niveaux, et ces podcasts sont très très précis, avec une première saison qui est vraiment sur la fabrique d'un livre, qu'est-ce que c'est exactement la fabrique d'un livre, et la deuxième qui sera beaucoup plus politique. Moi j'écoutais encore, il n'y a que deux épisodes je crois dans la deuxième saison, c'est ça? Non,
non, il y en a sept ou huit.
Ah oui, d'accord, ok. Et ils sont en train de migrer sur la R22 je crois, hein, oui. C'est ce qui fait des liens avec
tout à fait. Ouais.
Cette dimension de pédagogie et de transmission est très forte, et ça m'a beaucoup frappé aussi que dans les livres, et particulièrement dans celui d'Élodie, donnez presque comme un générique du livre, oui. Sur le site aussi, oui. C'est très frappant, vous indiquez à quel point il y a dans la production d'un objet édité un ensemble d'actrices et d'acteurs qui sont, et un ensemble d'actrices et de protocoles. C'est pas que des acteurs, c'est des protocoles auxquels on souscrit probablement sans le savoir, la plupart du temps sans le savoir, et donc vous les mettez de manière visible, comme s'il fallait montrer aussi toute cette usine de fabrication qui est celle d'un livre ou d'un site. C'est cet objectif-là aussi.
Bah, oui, bien sûr, et puis je pense que ça rejoint aussi ça rejoint une certaine critique féministe de l'édition, puisqu'on voit que très souvent les rôles dans la fabrication d'un livre, les rôles les plus invisibilisés, les plus précaires, sont aussi très souvent les plus féminisés. Donc il y a évidemment cet enjeu à montrer, et ce que disait Elodie tout de suite, hein, à montrer que c'est une fabrique collective et d'en montrer les différents aspects. Mais je pense que donc, c'est effectivement dans l'ours, mais c'est aussi par exemple autour du travail de traduction. Aujourd'hui, quand on fait des traductions aux éditions du commun, on part du principe que le ou la traductrice est mis en avant sur la couverture et on va plutôt inviter des personnes qui vont porter la traduction comme un projet à part entière. Ça a été mon cas, j'ai traduit un texte qui s'appelle Joie militante aux éditions du commun, et de vraiment reconnaître que très souvent, hein, dans les livres, la traductrice n'apparaît pas ou peu. On a même aussi des trucs complètement hallucinants de bouquins féministes qui sont traduits par des meufs sous-payées qui n'apparaissent pas sur la couverture, mais ça c'est pas juste dans l'édition mainstream, hein, voilà. Donc il y a vraiment un enjeu, enfin voilà, je souligne l'enjeu féministe, évidemment ça n'est pas qu'un enjeu féministe, mais il y a un enjeu effectivement à visibiliser les différents apports et effectivement les différents rôles dans la fabrication d'un texte.
Et c'est le rôle du collectif, enfin je ne sais pas si c'est un collectif, enfin en tout cas ce regroupement d'éditrices autour du manifeste édité en féministe.
Ouais, alors du coup dans un des épisodes de ce podcast dont on parle, les mécaniques du livre, parlait d'édition et de féminisme, avec un petit peu ce point de départ dans le questionnement qui est qu'on assiste à la troisième ou la quatrième rentrée littéraire féministe, où on voit que le féminisme est un super argument marketing dans l'édition aujourd'hui. Et ce qu'on observe par ailleurs, c'est que en fait absolument rien de ce que peut rapporter la vente de livres féministes aujourd'hui ne va à des structures autonomes féministes indépendantes qui du coup pourraient se pérenniser avec cet argent là et donc concrètement le jour où le féminisme arrêtera de vendre et que le patriarcat ça sera toujours bien là, on aura entre temps nous rien acquis pour nos luttes et pour maintenir la possibilité de publier des nouvelles voix, des nouvelles idées, etc. Donc ça c'était un peu le point de départ et on s'est rassemblés avec plusieurs donc il y a d'abord eu cette émission de radio avec les éditions Blast et les éditions Daronne et Isabelle Cambourakis. Et puis ensuite, on a monté ce collectif d'éditeurices féministes indépendantes avec l'envie à la fois de faire exister un discours politique autour de cet enjeu de qu'est-ce que ça veut dire éditer en féministe, en gros. Donc c'est pas juste de publier des textes féministes, mais c'est de questionner nos pratiques éditoriales. Et donc évidemment ça recoupe tout un tas de trucs, la question des droits notamment, ça fait partie des choses qu'aux éditions du commun on essaie de mettre en avant et on n'est pas du tout les seuls à le faire, mais puisqu'il y a certaines de tes étudiantes qui sont ici, la question des droits des auteurs, c'est une question absolument pas discutée, c'est vraiment tout le temps pris de façon hyper individuelle et la plupart d'entre nous quand on signe nos premiers contrats, en fait on se fait complètement bananer parce qu'on ne connaît pas nos droits. Donc là il y a vraiment un enjeu à avoir un discours politique public sur cette question des droits et à visibiliser les choix éditoriaux qui sont faits autour de ça, puisque là c'est les maisons d'édition qui sont clairement gagnantes dans le rapport de force. Il y a cette question aussi des violences sexuelles et sexistes dans le milieu éditorial, parce que quand je disais tout à l'heure qu'on ne touche pas la thune générée par le succès éditorial du féminisme, on voit pas non plus de changement structurel dans l'édition de manière générale. Donc voilà, on sait pas, par exemple, un exemple très concret aujourd'hui dans les bourses qui sont attribuées par le CNL, qui est l'institution publique qui donne des bourses aux auteuristes, aux maisons d'édition, aux traductrices, etc. Il y a aucune transparence sur les critères d'attribution des bourses, et donc typiquement, il n'y a pas de critères de genre, on pourrait imaginer tout un tas de critères. Par ailleurs, une structure n'est pas financée au regard de ses pratiques sur ses pratiques de rémunération, ses pratiques en termes de quels sont les contrats qu'elle fait signer, etc. De la même manière, les auteuristes qui sont financés, on ne sait absolument pas, on ne peut pas savoir aujourd'hui, sauf à aller chercher au cas par cas, qui est rémunéré, qui est financé pour la création littéraire de manière générale. Donc voilà, on voit qu'il y a un changement structurel qui n'arrive pas et le collectif, il a aussi vocation à pousser un discours là-dessus. Et dernière chose, désolée, je suis un peu longue, mais je vous ai dit, c'est une discussion qui prend du temps. Mais il y a aussi tout simplement la question de la précarité des éditrices féministes indépendantes. Aujourd'hui, des structures féministes indépendantes qui rémunèrent leurs éditrices, il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Donc on parle de personnes qui font de l'édition la nuit, le week-end, sur leur pause déjeuner, etc., pour pouvoir faire exister des nouvelles voix, encore une fois. Et je pense aussi, c'est aussi pousser pousser la création littéraire. C'est aussi un endroit d'avant-garde, en tout cas un endroit d'expérimentation hyper important qui, à la fin, est toujours récupéré quand il commence à fonctionner. Et du coup, il y a aussi cet enjeu-là. Voilà.
À part que quelqu'un veuille intervenir, mais je voudrais bien te poser une question que je me pose aussi, mais on pourrait aussi faire la même remarque d'ailleurs sur la question environnementale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il y a 1 milliard de livres sur la question environnementale qui sort et jamais un qui se pose la question de l'écologie du livre, en fait, quelque chose comme ça. Il y a, on pourrait dire la même chose sur les paroles non blanches qui sont comme presque prédatées aujourd'hui par le monde éditorial et qui ne donnent lieu à aucune transformation de la représentativité des populations dans le monde de l'édition. Mais j'aimerais quand même te poser une question que moi qui me préoccupe beaucoup de là où je suis à la fois comme enseignant ou comme éditeur ou que sais-je, c'est au fond ce système éditorial, est-ce qu'il ne repose pas par principe sur l'exploitation et la précarisation, et que donc il n'a aucune viabilité économique si on en sort. Et moi, je ne suis pas dans les comptes comme toi, mais ça, c'est la partie sombre. Mais la deuxième question que je veux te poser, c'est est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers un système où, de toute façon, il va falloir créer un espace éditorial qui est en partie subventionné. On ne sait pas par qui, mais il est en partie subventionné. Je prends l'exemple états-unien, par exemple. C'est ce qui se passe aux États-Unis. La littérature de recherche, la critique de recherche, elle se passe dans les presses universitaires qui sont largement subventionnées et adossées à des universités privées et dégueulasses, par ailleurs, pour la plupart. Hein. Mais, donc, est-ce qu'il y a une solution, véritablement ?
Alors, je ne sais pas. Nous, c'est l'exploration qu'on est en train de mener. Concrètement, c'est compliqué. Mais nous, on a envie de partir du principe que c'est possible. Juste, tu dis sur la question de l'écologie et la question, tu parlais de crise du foie, en tout cas d'hyperproduction dans le monde du livre. Nous, aux éditions du commun, on a décidé qu'on faisait 10 livres par an et pas plus. Et qu'on s'en tiendrait à ça et qu'on n'est pas dans une... on n'a pas l'objectif d'augmenter cette production-là, ni de se développer outre mesure, etc. Je pense que c'est une des réponses, mais c'est évidemment pas la seule. Sur ce que tu dis de est-ce que c'est possible, je ne sais pas. Nous, on part du principe que oui, et pour le moment, on s'en sort, on existe encore. On part du principe que c'est possible de s'inscrire sur le long terme, et même, c'est pour ça aussi la question de la rémunération, c'est un enjeu de pérennité, parce que voilà, quand je parle des gens qui travaillent la nuit, en fait, on ne peut pas faire ça toute sa vie. Donc, y a clairement un enjeu de pérennité lié au fait de pouvoir dégager des salaires. Et sur la question de la subvention, mais en fait, la thune publique, c'est la nôtre. Et donc, moi, quand je parle du CNL, c'est bien pour dire que ça devrait nous revenir, en fait. Et donc, il faut... Enfin, pour le dire très concrètement aussi, nous, avec le collectif Édité en Féministe, dans notre objectif dans les années à venir, c'est vraiment de leur foutre la honte, en fait. C'est que ce truc-là sorte, que ça ne soit plus possible de dire on publie des textes féministes avec des pratiques qui sont en fait aussi dégueulasses et aussi nocives sur le long terme. Et donc, ça veut dire quoi, en fait, de publier des textes qui sont des textes d'émancipation, que ce soit de poésie, de littérature ou d'essai, etc., avec une logique de pratique et une logique matérielle qui soit cohérente, quoi.
Alors peut-être on peut articuler ça, ces questions féministes aussi à ce qui et à ces protocoles sur la question de non pas l'écriture inclusive parce que c'est pas l'objet de ton livre de Fiévreuse Plébéienne, mais je crois que c'est toi Élodie qui a fait venir dans la boucle du livre le collectif Bye Bye Binary, je sais pas comment vous dites vous. Bye bye binary, ok. Qui est représenté ici par Eugénie Lina, mais avant de leur donner la parole, peut-être un mot, peut-être aussi sur cette pratique linguistique dans ton livre, qui est, me semble-t-il, plus qui est pas systématique en fait. Le rapport au féminin au masculin dans le livre est pas du tout. Il y a des passages où on va trouver ma corps, mon corps, ma encore.
Alors, ce qui est systématique quand même, c'est que c'est mon corps et par exemple, amour prendra un E, la sexe est devenue féminin. Enfin, quand même, c'est harmonisé. Ouais.
Mais il y a aussi des niveaux, moi, il me semble, où moi, je trouvais ça super, en fait. Je dois te dire que ça ne soit pas systématique complètement et pas complètement harmonisé.
Mais tu veux dire que tout le livre n'est pas complètement... c'est l'AE-corps qui est... Par exemple, l'AE-corps est non-binaire, mais c'est vrai que tout n'est pas... que, par exemple, Johnny c'est féminin. Mais au final, ça fout assez le bordel pour que ça questionne sur la masculinité de la langue et le patriarcat qui s'est infiltré. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si la langue, de toute façon, avait été confisquée. Mais bon, tout ça, c'est un travail qui a été entamé depuis longtemps par Monique Wittig, pour ne citer qu'elle, et Michel Causse, par exemple. Mais en tous les cas, c'est dans cette continuité-là. Ouais.
Et donc, tu connais les camarades de la collective Bye Bye Binary et tu te dis, il y a peut-être une solution d'un point de vue poétique aussi à ce que je cherche dans mon travail.
La solution, je pense qu'elle a été complètement trouvée et que Bye Bye Binary offre un outil complètement clé en main en fait pour que nous-mêmes en fait on puisse s'atteler en fait à ça et c'est trop beau et c'est vrai que dans la collective Bye Bye Binary j'ai aussi des affinités politiques et amicales. Je parle de Hélène Alix Mourier par exemple ou de Roxane Maillet avec qui on travaille beaucoup et de Camille Circlot. C'est comme ça toujours que je travaille de toute façon avec des. Ouais.
Avant de donner la parole à Eugénie et Lina, juste Juliette, par rapport au travail que vous avez fait en tant qu'éditrice avec Bye Bye Binary, c'est un travail que vous allez reproduire dans d'autres livres quel est l'objectif
Oui, là on en parlait juste avant, on parlait de glyphes manquantes et de comment on allait faire avec ça. L'idée c'est qu'on continue d'utiliser cette typo pour la collection de poésie. Mmh. Après c'est un outil et je pense dans la continuité de votre démarche, c'est un outil qui est mis à disposition. Donc les auteuristes s'en saisissent ou pas. Après clairement le fait que le premier texte de la collection soit le texte d'Élodie qui de fait a largement recours à la typo, c'est aussi clairement une invitation à ce que des écritures s'en saisissent. Et signifie qu'elles sont les bienvenues dans cette collection. Et après, peut-être pour d'autres textes, évidemment. Je pense que la porte est. En fait, moi, j'ai l'impression que la porte vient juste de s'ouvrir grâce à Elodie et grâce à Bye Bye Binary. Et du coup, voilà, que c'est un appel d'air.
Ouais, alors donc je signale par ailleurs qu'on peut voir votre travail exposé juste dans la salle à côté, hein, puisque vous êtes aussi invité en tant que collectif au festival, donc les planètes s'alignent dans cette réflexion. Donc peut-être présentez-nous à la fois la collective et ce qu'elle fait, et peut-être le travail que vous avez fait sur ce livre en particulier, et si ce travail diffère d'un livre à l'autre ou d'un projet à l'autre, quoi.
Donc du coup, la collective Bye Bye Binary, c'est une collective qui réunit des graphistes, typographes, artistes et qui a été formée en novembre 2018 lors d'un workshop à Bruxelles qui à la base était organisé à la fois par l'ERGE et la Cambre qui sont deux écoles d'art. Et en fait, depuis ce workshop qui proposait d'interroger l'écriture inclusive d'un point de vue vraiment de graphiste, on a constitué une collective et il y a d'autres personnes qui sont rentrées. Et là où au départ on avait vraiment des choses expérimentales, on a sorti plus récemment des polices de caractère plus fonctionnelles qui nous permettent justement de travailler sur des projets tels qu'avec les éditions du commun et Elodie. L'idée de base, c'était en fait, on s'était rendu compte que dans l'écriture inclusive, il y avait cette volonté, comme son nom l'indique, d'inclusivité, mais ça restait quelque chose d'extrêmement binaire, en fait. Par exemple, avec le point médian qui est très utilisé, qui sépare la terminaison masculine de la terminaison féminine, et un signe qui, en fait, à la base, n'est pas conçu pour cette fonction. Parce que en vérité, le point médian, c'est en épigraphie gréco-romaine, un signe qui sert à séparer les mots les uns des autres. C'est l'ancêtre de l'espace. Donc, on voit déjà dans sa généalogie que c'est davantage un signe séparateur que unificateur. Donc, on avait aussi envie d'utiliser les outils graphiques et typographiques à notre disposition pour proposer d'autres choses, dont en fait les ligatures qui sont notamment présentes dans la Baskerville qu'on voit dans le livre, c'est-à-dire des fusions de lettres qui nous paraissent refléter une plus grande fluidité et qui s'inscrivent aussi dans une tradition plus longue de l'histoire de la graphie et de l'écriture qui s'arrête pas simplement en fait aux quelques caractères auxquels on a accès sur nos claviers d'ordinateur, mais qui reprennent l'idée de la continuité scripturale. Et puis, et qui quand même, enfin qui techniquement arrive à fonctionner avec les outils informatiques, mais bon ça c'est peut-être un volet un peu plus technique qu'on pourra réaborder si vous le souhaitez, mais et donc voilà, enfin pour la collaboration sur ce livre, c'était chouette parce qu'en fait la police de caractère, donc le basker vol qui est utilisé. En fait, a été. On n'a pas dessiné l'ensemble des caractères. Enfin, c'était une typo libre de base qui a été développée par l'Atelier national de recherche typographique et auquel, du coup, vu que c'était une fonte open source, on avait cette possibilité d'y ajouter des glyphes. Et donc, on s'est mis à plusieurs mains à dessiner ces glyphes inclusifs, mais je crois qu'on est quasiment une dizaine à avoir travaillé dessus. Donc, c'était un peu compliqué voilà, de tout réunir dans un seul fichier.
Alors, pour les non-initiés, c'est quoi un ou une glyphe ?
Un glyphe, c'est synonyme d'un caractère, quoi, un signe. Et donc, cette collaboration nous a donné l'occasion, finalement, de sortir une version du caractère aussi qui soit plus fonctionnelle. Et donc, ensuite, de la sortir, donc, on a une typothèque en ligne sur laquelle chaque personne peut télécharger les fontes et les utiliser. Et on s'appuie beaucoup voilà, sur des collaborations comme ça pour financer aussi le travail et ensuite quand même pouvoir le redistribuer de manière gratuite. On a beaucoup cette pratique aussi de reprendre voilà, des typos libres et d'implémenter des nouveaux glyphes ou caractères inclusifs dedans.
Et la basker vol a une histoire en plus qui n'est pas étrangère à celle du féminisme aussi. Puisque si j'ai bien compris, c'est une police qui a été un peu piquée à sa conceptrice par...
Pas tout à fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est... En fait, le Baskerville de l'ANRT est un revival, donc un redessin numérique d'un Baskerville d'un typographe qui s'appelle Jacob, qui est une imitation du Baskerville de Baskerville, donc typographe anglais, qui lui-même était, qui a beaucoup travaillé avec sa femme, enfin, qui était à la base sa bonne, mais avec qui il s'est marié après la mort de sa première femme, qui s'appelait donc Mrs. Eves, et dont l'histoire a un peu été était oubliée, alors que c'est grâce à elle finalement que les caractères de Baskerville ont aujourd'hui leur notoriété parce qu'elle a vraiment repris son imprimerie à sa mort et là où Baskerville était un très bon graveur de poinçons, c'était un très mauvais gestionnaire qui était complètement ruiné. Donc en fait, sans le travail de Mrs. Eves, tout son travail serait tombé complètement dans l'oubli, alors qu'aujourd'hui ça fait, enfin pour les personnes qui connaissent un petit peu l'histoire de la typographie, le Baskerville c'est un monument de l'histoire de la typo. Et d'ailleurs, il y a une typo qui s'appelle la Mrs. Eves qui a été designée par Susanna Lico dans les années 90 ou 90, ça dépend d'où vous venez. Et qui voilà, est aussi un revival du Baskerville, mais qui rend hommage à Mrs. Eves. Je crois que j'ai raconté toute l'histoire.
Moi, je trouve ça passionnant, ces histoires de typographie que je ne connais pas. D'ailleurs, quand on va sur votre site, moi, j'ai passé une après-midi entière, on peut se perdre complètement de site en site. Il y a même, c'est assez amusant, il y a des tests pour savoir quelle est notre position masculiniste ou pas, à l'égard des typographies, etc. On peut découvrir quels sont les types de réflexes qu'on a à certaines questions. Mais aussi, c'est aussi un outil de travail, un outil pédagogique. On revient aussi à ces questions de formation qu'on va aussi trouver dans le crachoir aussi, dans l'expérience du crachoir. Hein. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, alors je pense à Jean-Max qui est 16e à l'origine, c'est qu'on a l'impression justement de retrouver un atelier de typographie du 16e siècle. Et pourquoi je dis le 16e siècle ? Ou retrouver des volumes du 16e siècle, c'est-à-dire quand l'orthographe française, comme on dit, n'a pas été complètement fixée. Donc quand elle n'a pas été fixée dans ses règles, qui sont des règles politiques, et on a l'impression quand même que là, ce que vous voulez retrouver, enfin de l'extérieur, hein, c'est retrouver de l'instabilité, au fond, de remettre de l'instabilité dans un domaine qui a été très normé par des normes sociales et politiques. Est-ce que c'est ça aussi ? Les choses ne semblent pas arrêtées complètement dans votre travail.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de prendre conscience qu'en fait, la langue, elle appartient à ses locuteuristes et que tout, on a l'habitude, via l'école républicaine notamment, d'avoir appris une langue extrêmement normée et on oublie en fait l'instabilité qui l'animait auparavant, donc au XVIe et même à l'époque médiévale avant cela. Je pense qu'on essaie de se réapproprier cette langue à la fin. C'est un peu le travail poétique en général dans le sens vraiment littéraire, mais au niveau de la typographie, du coup, on le fait plutôt dans les formes et dans vraiment la matérialité des mots, dans ce qu'ils ont de solide, on va dire. Et c'est complète. Et puis c'est aussi en ça que je disais qu'on serait inscrivé dans une culture scripturale plus large, c'est-à-dire que la typographie, au moment où elle était au plomb, elle a beaucoup figé les formes et normalisé les choses parce qu'il y avait des contraintes technologiques qui étaient beaucoup plus rigides que celles imposées par la plume à l'époque où on rédigeait de manière manuscrite. Et en fait, avec l'informatique, il y a beaucoup de ces contraintes qui ont sauté. On n'a plus des choses aussi figées qu'avec le plomb. On peut vraiment se permettre de retrouver des choses plus fluides avec nos outils actuels. Donc je pense qu'il faut s'en emparer aussi. C'est aussi que les moyens de production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir un ordinateur avec un logiciel de dessin de caractère pour faire une typo. Ça demande très peu. C'est très peu industrieux, en fait, comparé à ce que c'était auparavant. Donc, il y a une possibilité vraiment de réappropriation qui est présente et qu'on tente d'exploiter.
Oui, et on est une collective, comme on le dit, d'expérimentation aussi, principalement. Et on vise à expérimenter et à rechercher plein de formes différentes. Et comme on dit que la langue est une éternelle et perpétuelle évolution qui a fait un peu des allers-retours à des moments, mais on vise pas forcément des formes prédéfinies et exactement les mêmes pour chacune de nos fontes, mais plus à rechercher et expérimenter autour de toutes les possibilités en fait qu'on pourrait avoir pour proposer plein de choses différentes en fait.
Si j'en crois le livre de Malou Morvan, même la langue n'existe pas. C'est un concept qui s'est imposé aux autres. Elle n'existe que bâtarde, au fond. La langue, elle n'existe que quand elle est bâtardisée. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre travail, et que j'aime beaucoup, je dois dire, c'est cette question de la ligature. C'est-à-dire que c'est un travail, j'ai l'impression que votre action principale, c'est de produire des ligatures. Alors, vous pourriez parler de ça un peu, de ce que c'est une ligature, de son histoire. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas du tout, pourtant je fais de l'histoire, mais c'est quoi l'histoire des ligatures? Ça vient d'où, les ligatures?
Alors, petit cours sur les ligatures.
Mais rapide, hein, rapide, mais oui. Je trouve ça passionnant. Mais dans le livre d'Élodie, il y a beaucoup de travail avec les ligatures, sur les A-on, notamment.
Oui, les ligatures, en fait, c'est quasiment aussi vieux que l'alphabet latin, vu qu'on en trouve beaucoup en épigraphie romaine. Donc à la base, c'était plutôt pour des raisons de composition, c'est-à-dire qu'on faisait fusionner une, voire trois, voire parfois quatre lettres pour gagner de la place et faire rentrer les textes sur les pierres, quoi, parce que déjà qu'à l'époque, la production du papier, et du papyrus plutôt d'ailleurs, ça pouvait être un peu compliqué économiquement. Vous imaginez bien que des blocs de pierre, c'était aussi, fallait l'économiser un peu, quoi. Donc pour des raisons de place, on a commencé à faire des ligatures, et c'est quelque chose qui s'est perpétué plus tard dans les manuscrits. C'était aussi pour des questions de place, mais aussi de temps. En fait, finalement, en écrivant vite, on finit par ligaturer les lettres juste par le geste. Et finalement, au moment de l'invention de la typographie au XVe siècle, il y a eu un peu un recul de la ligature, parce que c'était plus simple de séparer les lettres les unes des autres pour composer. À part dans certains cas, c'est des cas qui sont toujours présents aujourd'hui et qu'en fait tout le monde utilise tous les jours sans s'en rendre compte, parce que ça se fait un peu magiquement par l'informatique. Mais par exemple, quand vous avez deux F l'un à côté de l'autre, il y a une ligature qui se substitue automatiquement aux deux F. Sinon, les deux F se cognent et ça crée une forme pas très heureuse visuellement. C'est le cas aussi avec s'il y a un F et un I à côté, vous voyez que la partie tombante du F va rencontrer le point du I de manière disgracieuse. Donc on a toujours ce type de ligatures esthétiques qui sont employées couramment. Et puis il y a aussi des ligatures qui finalement, si on ne les utilise pas, sont des fautes d'orthographe, comme par exemple E dans l'eau, etc. Voilà, c'était pour la petite histoire.
Là,
de
du coup, pour rattraper sur la question des écritures inclusives, ce qu'on comprend, c'est que vous vouliez aussi trouver une autre, pas alternative, parce que c'est pas une alternative, mais un autre modèle que les points qui séparent et que la ligature, c'est ce qui rassemble, au contraire, et qui unit.
Oui, c'est ce que disait Eugénie juste avant de ce point médian qui vient. Quand même divisé, en fait, même malgré le point médian, on a toujours un peu la binarité des terminaisons. En fait, le genre neutre n'existe pas avec le point médian. Et de créer ces fondus de lettres et ces ligatures de lettres permettait d'avoir une terminaison, une autre, et toutes les multitudes en fait, de terminaisons, et libre à chacun de lire comme il le souhaite. Et du coup, c'était une certaine. Certaines fluidités que permettent les ligatures en fait dans la typographie inclusive.
Vous allez l'éditer, vous allez l'utiliser, vous, le crachoir ou chez Terrasse Édition, la Baskerville avec ligature, ça vous intéresserait ou pas?
Ça nous intéresse ou pas la ligature? Après, je pense que c'était. En fait, j'avoue. Je peux prendre la parole. Non, en fait, je pense que du coup, nous, par exemple, au Crachoir, on travaille plus sur la question de prise de parole. Du coup, on n'est peut-être pas à ce niveau-là d'exigence intellectuelle, même si je trouve ça hyper intéressant, franchement. Mais, clairement, mais c'est vrai qu'on est plus à un truc presque basique de, en fait, quel dispositif on va mettre en place pour libérer la parole de ceux et celles qui ont le pouvoir de décider qui peut la prendre, en fait. Du coup, on est dans un truc beaucoup plus basique qui est comment, en fait, finalement, on va se dire en animant des ateliers d'écriture ou en animant une scène ouverte qu'on anime à Paname, c'est en fait comment à un moment on va dire toi tu peux prendre la parole, toi tu peux être écouté en fait. Du coup, c'est vrai que après, je pense que c'est hyper important d'avoir tous ces questionnements en fait, effectivement, comment on s'approprie la langue, comment on se la revendique et comment on la transforme pour que ce soit un outil en fait qui nous ressemble et qui participe au changement politique et social qu'on espère. C'est vrai que du coup. Et du coup, à Terrasse aussi, on se pose la question de est-ce qu'on féminise ou pas, est-ce qu'on transforme en langue ou pas. Moi, on fait pas mal de réédition, du coup, c'est compliqué parce que quand on réédite un texte des années 50, un texte révolutionnaire, est-ce que du coup, il faut transformer le texte ou pas. En tout cas, c'est un processus, c'est vrai que c'est bien que ça se travaille, mais du coup, en fait, Et après, je pense que c'est intéressant sur ces questions-là de pas forcément être figé, et je trouve ça intéressant de créer des va-et-vient entre. Nous, par exemple, parfois, dans notre éditeur, on écrit éditeurice et après, on dit éditrice. En fait, c'est aussi niquer ce truc-là. C'est qu'en fait, parce qu'à un moment, c'est créer de nouvelles règles. En fait, ça fait que, de toute façon, ça recrée des élites, ceux qui savent les maîtriser, ceux qui ne savent pas les maîtriser, ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui croient que l'ancien système, c'était bien, mais en fait, ce n'est pas bien. Qui pensent que le nouveau système, c'est bien, qui t'explique pourquoi, si c'est bien, parce que tu n'as rien compris. Du coup, en fait, je trouve que c'est encore plus intéressant d'imaginer, en fait, pour le coup, une fluidité qui fait qu'en fait, mais en fait, des fois, on féminise, des fois, on ne féminise pas. Et en fait, on fait comme il nous semble légitime, comme le corps ou l'accord, et que ce ne soit pas, en fait, une règle. Et c'est peut-être un peu ce dont on a besoin. Et du coup, peut-être pour revenir au crachoir, en fait, c'est vrai qu'on est sur des trucs un peu d'expérimentation aussi, qui n'ont pas avoué, du coup, à décider d'un nouvel ordre, et plutôt un nouvel non-ordre, mais.
Ah, il me semble juste, Elodie, tu voulais intervenir.
Non, mais c'est juste que justement, c'est ce qui arrive avec le travail. Parce que je pense que c'est vraiment pas le sujet des intellectuels, ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment qu'il faut justement cette confiance et cette. Parce que je pense que ça peut être complètement un sujet populaire, par exemple. Et que le travail de BBB, il est vraiment du coup de s'inscrire dans une. Parce qu'avec tout ce, par exemple, ce travail qui est mis à disposition gratuitement, il est aussi dans une. Enfin, je trouve qu'il y a une porosité qui se crée, en fait. Enfin, voilà, je voulais juste ajouter
ça. Ouais. Amédine
Oui, je voulais juste
Enfin, moi, j'ai l'impression aussi que le travail de Bye Bye Binary, ça va faire beaucoup de bien dans les milieux aussi d'édition de gros groupes, parce que souvent, c'est aussi une des... Enfin, ce qu'on dit souvent, c'est on va pas utiliser des écritures inclusives parce que c'est trop lourd visuellement, parce que ça utilise trop de signes, trop de caractères, et du coup, d'un point de vue grand public, c'est pas possible. Et je trouve qu'en fait, enfin, là, visuellement, tout de suite, c'est très allégé, donc je pense que ça va beaucoup aider à cet endroit-là. Et pour parler spécifiquement du crachoir, je pense qu'il y a aussi cette volonté de dire que on respecte aussi la volonté des autoristes quand qu'on va publier dans un zine, ou par exemple si quelqu'un en fait va nous dire je veux utiliser je veux mettre des ligatures dans mon texte, on va dire bah d'accord, on va voir comment on peut faire. Ou quelqu'un va dire je veux laisser ce texte tel quel, ne pas le faire corriger, on va dire d'accord. Enfin, il y a vraiment aussi cette chose de ne pas uniformiser sur le zine d'une manière générale, mais de plus le faire au cas par cas et de voir comment l'autoriste a envie de publier son texte.
Tu voulais dire quelque chose, Juliette,
non, je voulais juste dire, le jour où les grands groupes reprennent la typo librairie gratuite de BBB, moi j'aurais vraiment le seum. Mais ça va arriver, c'est sûr. Mais voilà.
Oui, on verra.
Potentiellement, ça va arriver. Mais après, il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que... Ça marche, vous m'entendez? Aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que...
Par exemple, un livre d'Alain Finkielkraut dans cette police-là, ça serait assez amusant, c'est vrai.
Non, mais c'est aussi que, par ailleurs, encore une fois, je reviens à mes petites obsessions, mais au CNL, ça passe pas très bien de proposer des projets en écriture, juste en écriture inclusive. On parle même pas de typo inclusive. Donc,
Oui, mais justement, peut-être ce que vous voulez dire à Médine, c'est que ça marche peut-être mieux la typo inclusive que l'écriture inclusive. C'est ça aussi que tu voulais dire. Peut-être que ça... Je sais pas, c'est...
En fait, ce que je voulais dire, c'est que... Marche. Ouais, si. Oui, que ça pouvait aussi donner un argument à un ou une qui veut publier en écriture inclusive, de dire en fait, je peux apporter des solutions au fait que, si on lui dit bah non, en fait, l'écriture inclusive c'est illisible, ça, je pense que ça peut apporter des solutions aussi à cet endroit-là. C'était plus dans ce sens-là.
Alors peut-être présentez-nous un peu les activités du crachoir, parce qu'on a parlé beaucoup d'une institution qui est l'institution du livre et de son système éditorial, mais vous naissez dans une autre institution, qui est l'institution de la formation, de l'école, de l'université.
Bah, du coup, pour faire vite fait rappeler comment est le crachoir, en fait, c'est nous, on est des camarades qui sont rencontrés dans le cadre de cette formation qui est ce master de création littéraire. Et en fait, je pense qu'on a eu le besoin et la nécessité de s'organiser à la sortie de ce master, non pas en dehors de notre amicalité qu'on avait trouvée au sein de trucs de cette formation. C'était aussi parce que je pense qu'on avait besoin d'un tout un pan qui n'était pas forcément abordé au sein de cette formation qui nous censée nous apprendre à devenir écrivain. C'est en fait comment on va survivre dans ce milieu-là, et qu'en fait, du coup, et finalement, ce que reproduit en général l'institution, c'est en fait, toi, tu as les outils, puisque en fait, structurellement, tu as les outils. Du coup, on n'a pas besoin de te donner des outils, puisque de toute façon, tu les as déjà. Du coup, ceux et celles qui se sentent légitimes à devenir pour de vrais écrivains, où on a les réseaux, où la famille, l'éducation fait que c'est beaucoup plus simple. Ou comme on voit par ailleurs, ceux qui sont en publié un premier texte, notamment sortant du master, et qui se sont après laminés sur le deuxième texte, puisque en fait, ils ne se resteront que chair fraîche que propose le master, et que deuxième texte, ils ont eu de la fame, voire des prix, et deuxième texte, tout le monde s'en fout, et genre, ça les rend dépressifs. Bon, après, c'est tout ce truc de l'absorption en fait,
non,
de ce que
c'est
produit.
C'est des vrais problèmes que tu poses.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est on s'est dit, bon, en fait, comment on s'organise et sur quel mode. Et en fait, on a appelé ça le crachoir, parce que je pense que on a l'espace d'apprentissage d'un art, en fait, c'est aussi un espace, je pense, de frustration sur lesquels, en fait, c'est très bizarre d'apprendre à être libre de faire ce qu'on veut dans un espace contraint qui est très organisé autour de règles très précises de comment ça doit fonctionner pour pouvoir être intégré au sein de cette institution-là. Du coup, on avait besoin et envie d'explorer un peu ça fait quoi, en fait, de se dire on va prendre la parole et créer une dynamique collective et critique autour de la question éditoriale, et dans toute son humilité qu'est ce zine et cette dynamique. Et du coup, c'était un peu le premier truc de prendre la parole comme ça, et après de mettre en place une scène ouverte pour aller un peu plus loin, pour aussi, je sais pas, mettre en place cet espace-temps où les personnes qui prennent pas la parole se sentent à l'aise pour le faire. Et voilà. Et du coup, on voulait vous proposer de lire, parce qu'il y a le numéro 2 qui va sortir en octobre, et on voulait vous proposer de lire l'édito du numéro 2. Parce que du coup, c'est assez édifiant. En tout cas, j'ai l'impression que c'est assez, ça définit à peu près ce qu'on est.
Élodie sourit parce qu'elle est tombée sur le nom de Marguerin. Donc,
oui, parce qu'on est toutes copines en vrai. C'est bon.
D'accord. Alors, c'est l'édito donc, du numéro 2 qui sort le 16 octobre à la Flèche d'Or. Si vous voulez venir, il y aura une scène ouverte notamment et des ateliers. Tout ça, c'est gratuit. Alors, place aux dupés, aux dupères, aux losers. Tapons dans les cages en verre avec un marteau. Ça prend du temps, ça fissure, mais conduit à des issues de secours pour prendre un air nouveau. Place aux moqués et aux perçus pour faibles. Place aux sous-estimés, sur les nerfs, enthousiastes. On nous bolosse. Sur les nerfs, plus assez loin de la guerre impérialiste pour l'ignorer, nous voulons prendre nos responsabilités. On pourrait dire, tu vas faire quoi l'écrivaillon, la poétesse ? Les mots face aux obus, ça ne fera pas le poids. Devant le déséquilibre métal contre papier, il nous faudrait rester derrière nos claviers à regarder le monde sur nos écrans et puis prendre la plume pour parler de soi, se déculpabiliser de l'égoïsme bourgeois ambiant comme seule porte de sortie honorable. Ça parle de transfuge à gauche, ça parle de mérite à droite, mais la vérité, c'est quoi la différence ? Sans communauté, sans solidarité, impossible de s'en sortir sans adosser son destin au capital. Le crachoir ne se veut pas un espace virtuel, ne se veut pas un espace de confort petit bobo cool, mais un endroit où l'on pense l'écriture et la parole comme une brique à l'édifice du changement. Parce qu'un récit radical et ou minoritaire porté par des maisons d'édition oligopoliques et ou chantres de la reproduction sociale qui ne travaillent pas cela, ça pose la question de sa portée. Le crachoir est une tentative de vivre l'idée collective au-delà de la réussite individuelle, au-delà de la réparation narcissique ou de la politique des visibilités. Nous ne serons pas libres tant que les autres ne le seront pas. Nous voulons garder les yeux ouverts le plus possible et nous confronter à nos propres contradictions. Proposer à chacune et chacun de monter sur scène lors de nos événements n'a pas pour but de répondre à la prédiction warholienne d'obtention de 15 minutes de gloire, mais bien de rendre à la scène sa fonction populaire de fabrication d'écoute collective et d'humilité. Sans celles et ceux qui écoutent, la scène n'est rien. Celle ou celui qui invoque son courage pour dire doit être respecté, célébré, seulement si son énergie est aussi dédiée à permettre à l'autre de trouver la force pour, si elle ou il le souhaite, prendre à son tour la parole. On restera sur les nerfs parce que c'est le prix de notre enthousiasme. Fac Saint-Barth et Saint-Tropez, vive Saint-Thé et le Creusot.
Je suis très heureux d'entendre le mot oligopolique, hein, dans la mesure où les oligopoles à frange sont une de mes marottes, comme le savent les étudiantes et les étudiants. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les scènes ouvertes ? En fait, qui c'est qui vient ? Comment ça se...
Alors, c'est tout le monde. Et, ce qu'on...
Mais est-ce que c'est tout le monde ? Enfin,
je veux dire, c'est chez nous, c'est vraiment tout le monde, justement. C'est-à-dire pas tout le monde, mais en réalité, 90% de gens qui travaillent dans le milieu littéraire. Et c'est ça qu'on trouve bien. C'est un peu comme quand tu vas au cinéma. 90% des gens ne travaillent pas dans l'industrie cinématographique. Bon, bah, là, c'est ce qu'on veut. Donc, il y a des habitués, il y a des voisins qui passent, il y a nos amis, il y a des gens qui nous ont vus sur Instagram. Et il y a des gens qui n'ont jamais pris la parole, par exemple, et qui ont travaillé leur texte depuis un mois. Qui viennent le lire en tremblant. Et il y a aussi des étudiants du master qui sont peut-être plus légitimes, qui vont faire une poésie moins tremblotante. Mais donc, il y a vraiment tout le monde. Du coup, il y a beaucoup de minorités. Il y a aussi parfois des gens des institutions qui viennent nous rendre visite et qui sont un peu étonnés de voir qu'ils sont traités comme tout le monde. Mais oui, voilà, c'était le but. Et je crois qu'on a réussi à rendre ça populaire. Donc...
Il y a aussi une pratique d'atelier d'écriture aussi, c'est ça dont tu...
Bah, c'est un peu le corollaire de ça, c'est qu'en fait, on s'est dit... la journée du 16, il y aura aussi un atelier d'écriture qui sera organisé par le crachoir en début de journée. Mais c'est aussi ce truc de, en fait, comment on réfléchit à non pas mettre en place des outils d'apprentissage de l'écriture, mais parce que j'ai l'impression que les gens qui viennent à des ateliers d'écriture, ils viennent pas pour apprendre à écrire, mais ils viennent pour qu'on les autorise à le faire. Du coup, c'est un peu tout ce travail de légitimation en fait qu'on essaye de mettre en place, qui est du coup plutôt un travail d'autorisation et de mettre le doigt sur qu'est-ce qui empêche les personnes de faire ce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient pas faire en dehors du fait qu'ils peuvent le faire. Du coup, c'est un peu...
Alors, pour reprendre une anecdote un peu du master, c'est vrai que, mais aussi le crachoir, il est né de certaines frustrations qu'on avait par rapport au master. À l'époque, nous, on nous avait dit que l'écriture inclusive, c'était pas de la littérature. Et du coup, on avait fait tout un foin, on avait fait un texte en réponse, et ça a été discuté.
Donc. Je m'en souviens bien. Voilà. Je n'étais pas complètement inclus dans ce qu'on donc, vous avait dit, mais
effectivement,
je m'en souviens bien.
Mais tu n'étais pas concernée personnellement, je précise. Mais du coup, on voulait un espace qui serait vraiment laboratoire, parce que très souvent, on avait l'impression qu'on nous polissait un peu nos textes, alors que nous, on avait envie de faire des essais aussi pour un peu en mode expérience de physique-chimie, quoi, pour voir ce que ça allait donner, mais qu'on était tellement pris dans une logique où on nous disait, mais il faut que tu publies dans 2 ans et tout, et donc il faut que tu sortes avec un texte prêt et au moins 200 pages qui sont bonnes et que tu peux envoyer en V1, naninana.
Moi, on vous disait ça ?
Moi, oui. Voilà, désolée. Mais du coup, on avait envie de sortir de ça et de créer un vrai endroit où on pouvait expérimenter complètement ce qu'on voulait et retrouver cet espace de liberté qui nous a parfois manqué.
Et juste pour compléter ce que Stéphanie disait, je pense qu'il y avait vraiment aussi cette volonté de dire que la littérature, elle existe en dehors du livre, parce qu'il y avait vraiment, enfin, pas une course à la publication, mais il y avait vraiment quelque chose de, tu viens, enfin, t'arrives dans ce master et le but, c'est un petit peu d'avoir un éditeur à la sortie ou une éditrice. Et en fait, moi, je sais que par exemple, je me posais pas forcément la question avant d'y entrer, et il y avait vraiment cette chose de préparer son texte pour qu'il passe en maison. Et en fait, là, c'était aussi redonner avec, ce qui se passe avec les scènes ouvertes, de redonner du crédit et de la légitimité à des textes qui ne sont pas nécessairement publiés, à des personnes qui n'ont pas été publiées, et de dire que, en fait, ce qui se passe aussi sur ces scènes, même si c'est juste quelqu'un qui vient raconter sa journée ou qui vient lire un poème écrit dans son téléphone, qui traîne dans ses notes, c'est aussi de la littérature et ça existe tout autant que une publication autre.
Et d'ailleurs, vous leur donnez une place dans les publications du crachoir aussi ?
On a eu aussi envie de prolonger ça et de faire une sorte de crachoir bis ou à côté où on va essayer de rassembler le plus de textes possibles qui ont été lus pendant ces scènes ouvertes et de faire une sorte de petit recueil avec tous ces textes ensemble. Parce que, je pense que c'est d'assurant beaucoup des questions qu'Antoine travaille, mais de qu'est-ce que ça veut dire aussi des textes qui ont été lus ou qui ont existé dans un même endroit ensemble, qu'est-ce que ça veut dire de les mettre ensemble dans une publication voilà.
Oui, l'éditorialiser, quoi. Oui. De toute façon, je dois dire que votre promotion qui s'appelle « Il n'y a pas de hasard », cette promotion s'était auto-baptisée « Fièvre ». Il n'y a pas de hasard. Cette promotion a fait bénéficier... les nouvelles promotions ont beaucoup bénéficié de votre fièvre et de votre contestation et de ce qu'elle a amené. Mais ça, c'est un truc de cuisine interne. Ce qui me frappe aussi, en discutant avec vous toutes, et en lisant Élodie aussi, c'est qu'on a commencé sur la colère. Il y a plein de... C'est vrai qu'il y a plein de raisons de l'être. Il y a aussi cette... On vous a entendu, Élodie, puis vous, dans votre édito, cette dimension manifeste, qui, elle, est beaucoup plus affirmative. Il y a aussi quelque chose qui traverse le livre d'Élodie, qui est assez fort, je trouve. Il y a une sorte de mélancolie aussi dans le livre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans cette invention langagière qui est « J'habite à Deepland ». Et je trouve aussi que dans les discours qu'on a, il y a ces trois éléments qui coexistent, un petit peu de mélancolie, de colère et aussi d'auto-affirmation. Et donc, je me demandais un peu ce que vous envisagiez pour vous sauver de cette situation. Je vois, par exemple, si je pense aux éditions du commun, c'est tout à fait public. Donc, les éditions du commun font un appel en ce moment à soutien. Alors, c'est un appel à soutien particulier, puisque c'est un appel à soutien en disant achetez nos livres, en fait, tout simplement, et pas, je sais pas, donnez-nous de l'argent ou quoi que ce soit. C'est achetez nos livres. On a besoin de, dans un souci de transparence complètement, on a besoin de ça, ça, ça et ça pour continuer à vivre. Est-ce que je voudrais interroger pratiquement, c'est un peu votre foi. Tout à l'heure, on parlait de la crise de foi, mais de votre foi et votre croyance, qu'est-ce qui vous fait maintenir ce geste-là, le geste éditorial, le geste collectif, face à quand même une situation qui étouffe beaucoup de personnes, quoi.
Qu'est-ce qui nous fait maintenir le geste éditorial ? Il y a plein de choses, mais notamment le fait que je pense que dans l'édition indépendante aujourd'hui, il se joue des choses. Et quand je dis édition indépendante, en fait, je parle pas seulement des éditeuristes, je parle de l'ensemble des personnes qui interviennent dans la fabrication d'un livre.
Et la fabrication des scènes aussi littéraires ou uniquement
oui.
Le livre.
En tout cas, je pense qu'il se joue quelque chose aujourd'hui, mais comme partout ailleurs, en fait, quand on est vraiment dans la merde, on a plus besoin les unes des autres, et donc en fait, on se retrouve à plus faire des trucs collectifs, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que donc moi, je peux parler en mon nom, pas forcément au nom de mes camarades collègues, mais je trouve que il se passe plein de choses qui dépassent la question marchande. Alors évidemment, on est quand même structuré par cette question de la marchandise et c'est un enjeu à réfléchir en permanence et remettre à distance et questionner, etc. Mais il y a plein d'endroits qui le subvertissent. Et je pense notamment tous les endroits de coopération. Il faut aussi dire que c'est quand même... je pense que ce soit les auteuristes, les maisons d'édition entre elles, le régime de la concurrence nous traverse tous. On est vraiment marqué par ce truc-là. On est construite là-dedans. Mais que je pense que dans l'édition indépendante, il y a plein d'endroits où aujourd'hui on est en train de dépasser, ou en tout cas on essaie de trouver plein de façons d'être plutôt dans la coopération que dans la concurrence. Donc déjà, ça c'est hyper intéressant. Et puis après, il y a juste, moi pour répondre en tant qu'éditrice, il y a juste que c'est. C'est un plaisir incroyable d'avoir de publier des textes comme celui d'Élodie, de travailler avec toutes les personnes qui travaillent sur ces textes. Et justement, cette aventure collective et le fait de se dire collectivement, on est en capacité de faire exister cette finalité du texte qui circule, ça c'est super. Donc on va continuer de le faire pour ça.
Chez Terrasse ou dans le crachoir. Peut-être tu peux présenter un petit peu Terrasse, je crois que c'est intéressant en quelques mots aussi, parce que ça participe.
Ça fait partie de la constellation des maisons d'édition gauchistes qui font aussi. Je parle pour Terrasse, mais du coup, je fantasme que c'est un peu les mêmes raisons pour mes camarades éditeuristes de l'extrême gauche. C'est en fait braquer une banque, c'est trop chaud, en fait. Et du coup, en fait, pour fabriquer les armes qu'on a, c'est aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'à Terrasse, avec mon camarade, quand on l'a monté, c'était. On a pensé que politiquement, c'était important de faire ça à ce moment-là, d'éditer des livres. C'était pas par désir d'être éditeur, ni l'un ni l'autre venant de ce truc-là. Moi, j'ai jamais pensé que j'éditerais des livres de ma vie, etc. Du coup, c'est plus en fait un opportunisme politique d'action, comme en fait le crachoir se monte par réponse presque émotionnelle et politique face à notre réflexion qu'on se doit de se poser autour de la question de c'est quoi écrire, comment écrire, individualité, anonymat, pseudo, écriture collective, qu'est-ce que ça veut dire d'être un auteur ou une autrice ou des auteurs, des autrices, ou le collectif, en fait, c'est plus l'urgence de se poser des questions aussi dans... Parce que tu parles de mélancolie, mais je pense aussi un truc de frustration, c'est qu'en fait, vivre dans ce monde-là, franchement, et je pense que moi, je suis partie des personnes pour qui c'est sans doute le moins chiant, enfin, en tout cas, j'ai plein de privilèges, nanana, mais c'est qu'en fait, vivre maintenant, c'est hyper nul, en fait, à plein d'endroits. Et du coup, en fait, on est là, bon, mais en fait, je sais pas, le mec dans le 16, il a sa Porsche Cayenne, il est au calme, personne lui tacle, mais on lui crève. Parfois, peut-être, on dégonfle le pneu, quoi. Enfin, et du coup, on est là. Enfin, il y a tout ce truc où j'ai l'impression qu'on tâtonne un peu dans ce truc. Non, mais je veux pas faire le mec qui fait des trucs, genre des trucs un peu grossiers et tout, mais on tâtonne et on se dit, mais en fait, on prend des bouts de ce qu'on peut. Et en fait, j'ai l'impression que. Nous percevons, mais ce truc de le capitalisme, c'est cette grosse machine qui avale. J'ai l'impression que on est ces mini groupes de lutte armée, disons intellectuels, qui sont de rattraper des petits bouts pour les laver de cet affront que produit ce système-là, pour les reformer autre chose, pour en faire quelque chose d'un peu fonctionnel. Et c'est un peu, en fait. Enfin, moi, je pense que d'écrire ou de monter des collectifs, de travailler ensemble, en fait, ce sont des actes de survie quotidien. Et du coup, là, on parle du livre à Beaubourg et tout, machin. Mais en fait, il y a plein d'autres choses en fait, qui se forment collectivement, qui sont soit des actes collectifs d'entraide et de solidarité et d'essayer de niquer le capital et tout. Et en même temps, qui sont des gestes de survie individuelle et collective, de rester en vie et pas d'être complètement avalé par... je sais pas, Jessica des Marseillais ou Julien Courbet, quoi. Enfin, non, mais je sais pas comment dire. Voilà.
Non, mais je veux bien du coup rebondir et je suis carrément d'accord. Et je pense que aussi un autre truc, c'est en fait, en vrai, du point de vue, enfin, moi en tant qu'éditrice aujourd'hui, je suis très contente d'être là où je suis. J'ai une liberté et j'ai un terrain on a un terrain d'exploration collectif. C'est aussi hyper stimulant en fait, en vrai. Et j'aimerais pas travailler dans un grand groupe où on me dit tu choisis tes textes en fonction de leur potentiel de vente et où on va me mettre plein de limites et où je vais intervenir juste sur une partie du texte et le reste sera à d'autres personnes, etc. Là, c'est beaucoup plus, c'est plus galérien, mais c'est plus collectif et du coup, c'est plus joyeux aussi, quoi.
Oui, mais justement, il y a une partie de ma question qui était, j'avoue, on pensait en escalier, donc pas facile à comprendre, mais moi-même, je ne me comprenais pas tout à fait. Mais tu dis, il y a plein de manières. Il y a plein de collectifs à créer, il y a des collectifs de lutte, il y a des collectifs d'indépendance. Il se trouve qu'autour de la table, les personnes qui sont invitées travaillent toutes à partir de, bizarrement, la littérature, quelque chose qu'on appelle la littérature et dans lequel ils investissent une donnée que je n'arrive pas totalement à maîtriser, d'autant plus que je la vois d'autant plus du point d'observation où je suis, c'est-à-dire en traitant des candidatures en master création littéraire qui sont massives. C'est-à-dire cette fois, en se dire que le geste littéraire, le geste éditorial est désirable, m'interroge aujourd'hui. Élodie, tu prenais le micro pour dire quelque chose là-dessus ou pas?
Allô? Ouais, je pense que c'est une époque passionnante et qu'on vit à un moment, mais de transition passionnante, de transition avec ou sans Orban. Dans tous les cas, on est dans un truc genre trop puissant parce qu'il y a des scènes qui se multiplient et en France notamment, il y a quand même un intérêt pour la poésie qui est délirant. C'est-à-dire que, enfin, quand j'ai commencé à faire des fanzines de poésie, franchement, ça intéressait pas grand monde. Enfin, il y a un truc qui est outre-Atlantique, des lectures de poésie et des performances de poésie, c'est un truc qui est complètement populaire, qui fait partie des milieu militant queer, enfin, c'est des trucs que tu vois tout le temps et genre en France c'est en train d'arriver, il y a une émulsion de dingue et là je pense qu'on vit un moment genre génial et puissant et complètement je sais pas, explosif. Et moi j'ai, pour le coup là-dedans, j'ai assez la foi et je trouve qu'il y a, du coup ça porte la colère aussi qu'on peut avoir, en tous les cas il y a quelque chose qui explose.
Non, il y a manifestement quelque chose qui se passe, effectivement, en ce moment, hein, autour de la littérature. Et je pense que vous dites la même chose, hein, exactement, c'est la même chose.
Absolument.
Ouais, il y en a un qui dit l'époque est pourrie, l'autre elle est géniale, mais c'est la même chose.
Non, mais en fait, par exemple, moi, je veux juste un détail, et je pense que là, je parle en tant qu'éditeur, mais c'est que du coup, c'est moi quand la poésie, en tout cas la poésie marginale, c'était vraiment dans les fonds de tiroir, dans les bouts de zine qui traînaient dans les teufs ou sur la scène punk et tout. Et là, bizarrement, en tant qu'éditeur, on a essayé de racheter les droits d'un poète PD Seropo qui meurt en 92, afro-américain, trop beau, super inconnu. J'étais là, personne n'en veut, on va pouvoir récupérer les droits parce qu'on est une petite maison d'édition, mais on peut quand même se targuer d'une sorte de professionnalisme, entre guillemets. Et en fait, on nous a dit non, parce que c'est trop petit. Et là, c'est trop intéressant, ce qui se passe. C'est la poésie qui était tout en haut de l'étagère poussiéreuse où, genre, juste... je sais même pas qui, enfin bon bref, ceux qui sont connus, et ben là on sent que le grand capital de l'édition, ils sont en train d'aller creuser, et parce qu'en fait ça se voit, c'est-à-dire que par exemple nous quand on lit un poète PD punk argentin en bilingue, mort du DAS en 2016, personne ne comprend, on a vendu plus de 1000 exemplaires, ce qui en fait est rien et énorme en vrai, et en fait tout ça c'est qu'il y a les petits yeux et les oreilles de maisons d'édition solides, institutionnelles, enfin nanan, qui sont là, ah mais regardez ça se vend, et là ils sont en train d'aller grappiller. Et en fait, et juste pour finir, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'est-ce qu'on met putain en place pour que, en fait, restons dans la marche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on crée? Absolument. Mais ce que tu disais en dehors de la. Enfin, avant qu'on en parle, enfin, avant ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour que l'attrait de l'absorption capitaliste ou de la grande industrie culturelle ne soit plus aussi attrayante. Et c'est hyper difficile parce que c'est ce qu'on doit définir collectivement, parce que sinon, en fait, ça tue tout, en fait.
Non, moi, je voulais juste rajouter dans la continuité de ce que tu dis aussi, un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est la question de la propriété intellectuelle, et qui est quand même une vraie question, puisque aujourd'hui, quand tu cèdes tes droits à une maison d'édition, dans une très, très, très large majorité des cas, tu cèdes tes droits pour toute ta vie et 70 ans après ta mort. Ça veut dire que les textes qu'on produit aujourd'hui, qui sont en fait des textes qui ne naissent pas de nulle part, je veux dire, tous les textes féministes, antiracistes, queer, etc., viennent des mouvements, enfin, je veux dire, doivent, de mon point de vue, hein, doivent aux mouvements. Et en fait, à partir du moment où ils sont édités, ils appartiennent à un groupe privé, et ils appartiennent à un groupe privé pour une durée qui excède largement les besoins qu'on en a. C'est-à-dire, en fait, on a besoin de ces textes-là, et que ces textes-là soient au pot commun, aujourd'hui, dans les décennies à venir, etc. Et du coup, là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose à pousser de ce point de vue-là, tant du point de vue des maisons d'édition que des auteuristes, etc. C'est où est le commun? Où est le commun des textes? Et là, c'est pareil, sur le rachat des droits de la même façon. Enfin...
Ouais, mais je pense qu'il y a aussi une question de qui se sert du commun, parce que du coup nous on a cette question avec les typos qu'on publie en libre, donc des licences qui permettent leur exploitation par tout le monde. Et on en a parlé très brièvement tout à l'heure sur l'idée des grands groupes qui pourraient vouloir utiliser ces typos et de la réappropriation de choses qui ont été créées de manière hyper hyper précaires, enfin de manière joyeuse, mais voilà, avec très peu de moyens et qui sont redistribués gratuitement à la base dans le but que ce soit pris en main par des personnes qui sont un peu dans les mêmes paradigmes de création que nous, mais qui en fait à partir du moment où ça devient un peu attrayant, où ça peut potentiellement devenir un argument marketing, il y a cette question de la réappropriation qui vient jouer. Donc, là, on a un peu créé un groupe de travail pour penser ces questions de licence aussi, pour essayer de proposer d'autres choses que le pur libre, qui finalement est un truc libertaire, mais aussi potentiellement libéral. Et voilà, et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais sur en fait la foi qui nous ferait produire. Je sais pas si c'est vraiment, enfin c'est peut-être un peu.
C'était un jeu de mots avec crise de foi. Hein.
Non mais j'ai bien compris. Mais... Ouais, non mais je pense qu'il y a peut-être aussi un côté peut-être un peu romantique dans l'idée de se dire que ça vient d'une espèce de croyance de vas-y on va améliorer les choses, c'est génial. Et c'est vrai que c'est pas complètement faux, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un peu plus viscéral qui vient d'une nécessité, quoi. C'est-à-dire que, en fait, quand on est des personnes queer et que notre langue maternelle c'est le français et que on nous a toujours appris que le masculin l'emportait, etc. Enfin, pour pouvoir se dire et se penser et s'écrire, on est obligé de trouver d'autres manières de faire et d'inventer des nouvelles pratiques. Juste pour pouvoir exister dans notre propre langue, quoi.
Ouais, merci, c'est très juste. On arrive presque au bout de cette émission, mais si vous voulez prendre du plaisir en lisant des choses sur ces phénomènes de récupération, il y a des pages très amusantes dans le livre d'Élodie sur la performance de la précarité, la performativité de la précarité, qui renvoie aussi à ces questions-là. Je voulais aussi faire une remarque qui pour moi est assez signifiante, c'est que autour de cette table, vous êtes éditrices et éditeurs, autrices et auteurs. Et ça, j'en parle souvent aux étudiantes et aux étudiants. Je pense que c'est vachement important aussi, à un moment, de prendre conscience des outils de production quand on veut se mettre dedans, et que c'est quand même aussi, d'un point de vue de l'auto-formation, très important de passer par ces actes-là, que l'édition soit celle d'un fanzine, qu'elle soit celle de la revue Le Crachoir, qu'elle soit celle de livres, c'est toujours de l'édition, ou qu'elle soit celle d'une scène ouverte, quoi. Ça fait comprendre beaucoup de choses sur ce qu'on est en train de faire en ce moment. On va finir par toi, Élodie, et par une deuxième lecture.
L'histoire de la poésie est liée à l'histoire de la sexualité. Michel Foucault. La poésie a directement à voir avec la sexualité et la société et l'omniprésence des hommes qu'il faudrait tuer pour avoir enfin accès à un paysage expérimental et dénué de toute bataille stérile, merdique, stupide. Bébé. Les professeurs hommes aimaient bien à se retrouver entre eux dans la salle des professeurs ou ailleurs dans les cafés ou dans les vernissages pour décider ensemble du monde important dans lequel nous évoluons tous. C'était un plaisir pour eux de parler ensemble de choses savantes et brillantes et littéraires et aussi d'imaginer la bibliothèque de l'école et son enseignement. Ils aimaient bien être ensemble, parlant fort et monopolisant les couloirs et les sièges de bar. Ils décidaient du déroulé des leçons et des poèmes lus en classe. Ils n'étaient jamais embêtés par quoi que ce soit, étant donné que c'était leur monde et qu'il avait été conçu par eux et pour eux. Très concentrés sur les problèmes de leur vie et les discussions intenses et intellectuelles, ils s'éditaient entre eux, s'invitaient entre eux, organisaient des événements pour eux, pour montrer les richesses de leur espèce. Tout le monde applaudissait comme s'il n'y avait qu'eux qui existaient et faisaient de l'art et de la poésie. Mais un jour, après très très longtemps et plusieurs évolutions, le poteau rose fut dévoilé. Les professeurs hommes jouissaient d'un capital qu'ils avaient accumulé depuis des millénaires sur le dos d'autres personnes aussi intelligentes, sinon plus fines, qu'eux, brillantes, fortes, capables de décision et de choix, d'art et de se révolter. contrairement à eux qui n'ont jamais eu à se battre pour survivre dans leur propre monde. Alors, on découvrit l'existence de Sappho, de fonceuse brillante, d'avant-gardiste bouillonnante, de décisionnaire, d'écrivaine talentueuse enterrée depuis toujours sous les couvertures des professeurs hommes. À l'heure actuelle, personne ne sait pourquoi dans les écoles, les rayonnages des bibliothèques, les cours de poésie et les émissions littéraires, il n'y a encore que des hommes blancs qui subsistent. Michel Foucault. C'est ainsi que ces hommes érudits et poètes, avec leur bite qui pue, venaient niquer l'ambiance partout dans les colloques, dans les écoles et les universités. Ils traînaient comme ça, la bite à la main, et se frottaient contre les bureaux, les dossiers de chaises et nos dos. Ils se branlaient devant tout le monde en montrant leur sexe pénétrant, en disant qu'ils avaient tous les outils pour continuer à être les rois du monde poétique, avec leur grande gueule moche et leur façon de s'exprimer coulante. Alors, un poète pâle prit le micro et une bouteille d'eau et une petite table et réclama une ambiance tamisée. Il commença à lire sa poésie communiste avec langueur et désincarnation. Son corps mal foutu disparaissait dans ses vêtements mal coupés. Ses problèmes étaient dépressifs et blanc-centrés, de classe moyenne. Lui aussi, il voulait faire la révolution. Je vais m'arrêter ici. Merci.
Merci à toutes. Merci à Élodie pour ces deux lectures. Merci à tout le monde autour de cette table. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette session dans le cadre du Festival Extra. Et puis, il y a plein d'autres activités qui se passent là-haut, ici, puis là-haut. Donc, à bientôt. Au revoir tout le monde.